Le commentateur de football de demain, c'est d'abord un passionné. Il n'a pas forcément fait d'école de journalisme. Il a du style et il n'était peut-être pas né en 98. Ce qui est sûr, c'est que le commentateur de demain, c'est un compétiteur. Il va nous le montrer sur Canal+.
Trouver une nouvelle voie pour le foot, c'est le défi que se lancent Laure Boulot, David Ginola et Hervé Matou dans l'émission Au Micro, ce soir seulement sur Canal+.
Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
Jean-Christophe Drouet.
10h07, on est de retour dans les grandes gueules du sport. C'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Si vous avez raté la première heure, nous avons parlé de Teddy Riner, de sa peur de remonter sur un tatami, de Kylian Mbappé. Est-ce la faute du Paris Saint-Germain? Si vous avez raté cette première heure, n'hésitez pas à aller nous écouter en podcast. Toujours avec David Douillet, Simon Dutin, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux. Dans quelques instants, la seconde des GG sur la déchirure de 3 cm de Novak Djokovic durant l'Open d'Australie, qui a fait beaucoup parler. Il a écrasé tout le monde. Son succès fait-il du tort au tennis? 10h30, un homme en colère, Pierre Ami, je veux nous parler du scandale sur le Vendée Globe. Restez bien avec nous, on vous explique cette histoire. Et puis 11h, le bras de fer des GG à la veille du tournoi des 6 nations. Faire un grand tournoi pour le 15 de France avant le mondial. Il y aura une team, c'est obligatoire. Une team, c'est accessoire. Et puis une nouvelle séquence dans cette émission. Désormais, il y a le guet-apens. C'est ce débat caché, fantôme, mystère. Les GG ne savent rien sur ce débat. Vous ne connaissez pas l'intitulé et pourtant, vous allez tenter de vous embrouiller sur ce sujet. Ce sera dans quelques instants. Je ne vous en dis pas plus. Un proverbe chinois pour débuter cette nouvelle heure. Ça fait peur, hein?
Ouais, non, bah je suis à deux doigts de quitter l'émission, quoi. J'ai la trouille, quoi.
Ah oui, attendez, on travaille avec des grands professionnels, évidemment.
Il y a des chroniqueurs que ça dérangerait pas, parce qu'il y a certains débats, même quand ils les ont à l'avance, t'as l'impression qu'ils ont pas trop.
Il y a
des journalistes pour qui ça pose un problème, effectivement, d'éthique, de travail, mais bon.
Je peux dire que quand Marc Madiot, il va savoir ça, il va pas être content. Tu vois. Et on embrasse Marc, évidemment. Proverbe chinois pour débuter cette nouvelle heure. La blessure cicatrisée, on oublie la douleur.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
C'est Robocop, sortez tous par la porte arrière, vite!
Je suis inquiet et je ne peux pas dire que je ne le suis pas.
C'est vrai tous ces mensonges là?
Pour être honnête, ce n'est pas très bon.
C'est cela, oui.
Je prends jour après jour, mais mon impression était meilleure sur le match précédent qu'aujourd'hui.
Votre train a déraillé. Il est allé trop vite dans un virage. Un autre train vous a alors percuté. Vous n'avez aucune égratignure.
Peut-être que je vais faire appel à Dieu pour m'aider.
Mais qu'est-ce qu'il y connaît, lui? Moi, je dis qu'on est des gens qui s'entraînent.
Djokovic qui prend la ligne. Elle est faute. Ah non, c'est faute. Non, elle est bonne. Oh, incroyable. Novak Djokovic, comme un grand, comme un seigneur, remporte son 10e Open d'Australie, son 22e Grand Chelem.
Son squelette est un mécanisme de combat hyper sophistiqué, mu par une chaîne de microprocesseurs, invulnérable et indestructible, mais entièrement recouvert de tissu humain.
C'est l'affaire de la semaine en tennis, la fameuse déchirure de 3 cm à la jambe gauche de Novak Djokovic, révélée mercredi par le patron du Grand Chelem australien, Greg Taylor, et largement évoquée par le Serbe lui-même durant le tournoi. Une blessure qui n'a pas empêché l'homme aux 22 Grand Chelem désormais de rouler sur ses adversaires. Une blessure qui fait couler beaucoup d'encre et qui alimente beaucoup de fantasmes. Novak Djokovic qui aurait notamment fait appel à une docteure miracle durant l'Open d'Australie. Le numéro 1 mondial, agacé par les soupçons, promet de la transparence et a annoncé son intention de publier les détails de sa déchirure. La musique qui fout les jetons. Et cette question. La victoire de Djoko fait-elle du tort au tennis? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Elle pose des questions.
Sarah Pitkowski.
Moi non, mais certainement pas.
David Douillet.
Non, pas du tout.
Simon Dutin.
Non, pas plus que ça.
Ok. Du rythme, les gars. Du rythme. On réveille les gens.
Du temps pour les fans de Nadal ou Federer, mais pas dans le sens où tu l'entends, en tout cas, non.
Parfait. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis, Eric Salio. Salut Eric, qui était évidemment durant cette quinzaine en Australie. Djoko doit tout nous dire. Bon, on attend encore, Eric. Hein.
Oui, une semaine après les larmes de Melbourne, Novak Djokovic inspire toujours la méfiance, pour ne pas dire la défiance. Comment gagner un grand chelem avec une déchirure, même si les fameux 3 cm ne sont pas datés? Car rappelons que le Serbe s'est blessé le 7 janvier, en demi-finale du tournoi d'Adélaïde. Convenons aussi que Goran Ivanišević a fait passer son joueur pour un surhomme.
Bon, je ne dirais pas 100%, mais 97% des joueurs qui auraient pris connaissance du résultat de l'IRM le samedi précédent le tournoi seraient allés voir le juge arbitre pour déclarer forfait. Mais pas lui, il est d'une autre planète, son cerveau fonctionne différemment.
Oui, il n'est pas fait comme les autres, on a compris Goran. Le garçon est prêt à tous les sacrifices.
Il a tout donné pour se soigner, 77 thérapies par jour, mais ça s'améliorait progressivement. Je ne m'attendais pas à ça, honnêtement. J'étais choqué. Bon, les deux premiers jours, ça allait, mais ensuite, contre Dimitrov, j'ai eu très peur. Et à la fin, il gagne le tournoi, bluffant.
Dans sa langue natale, Goran Ivanisevic dira même que le coach Dimitrov aurait dû lui conseiller de faire 1000 amortis. Soyons clairs, le mystère demeure entier sur les soins dont a bénéficié Novak Djokovic. On sait qu'il est coutumier du caisson hyperbare, un système où on est exposé à une pression supérieure à la pression atmosphérique, ce qui permet d'accroître la cicatrisation des tissus. Le journal L'Équipe a également évoqué le recours à un médecin miracle arrivé en urgence à Melbourne. Mariana Kovacevic, c'est son nom, est connue pour utiliser du placenta de cheval pour réparer les muscles déchirés. Tout cela, ce ne sont que des spéculations, parce que Novak Djokovic cache son jeu. Il en a parfaitement le droit, ça entretient le mythe, mais qu'il arrête de balader tout le monde. En 2021, il avait promis un documentaire pour montrer la manière dont son équipe avait soigné sa déchirure à l'oblique. Cette année, il a considéré la publication des images de sa lésion à l'ischio. On attend toujours. Et le contraste est saisissant avec Rafael Nadal lors du dernier Roland-Garros. À l'issue de son 14e sacre en conférence de presse, l'Espagnol avait pris le temps d'expliquer les piqûres anesthésiantes pour endormir son pied. Et quelques jours après, il avait été soumis à un traitement par radiofréquence pulsée. C'était l'opération de la dernière chance qui lui a permis de jouer à Wimbledon. Ensuite, ce sont d'autres parties de son corps qui ont lâché. Nadal et Djokovic ont 22 grands chelems chacun, mais en termes de communication, la différence est palpable. Et le public la ressent.
Merci beaucoup Eric Salio pour toutes ces précisions. La victoire de Djoko fait-elle du tort au tennis? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Elle pose des questions. Christophe Cessieux.
Alors, la différence est palpable entre les deux, nous disait il y a quelques instants Eric. Et pourtant, rappelez-vous les réactions qu'il y avait eu après que Nadal ait dit oui, je me suis fait soigner, j'ai joué sous infiltration. Je me rappelle, c'est Thibaut Pinot notamment qui avait dit je sais plus qui avait dit ça.
Oui, c'est ça. Ça, ce sont vos héros, quoi, en gros.
Ouais. Parce que, évidemment, en matière de cyclisme, ce genre de choses est interdit. Hein. Tu n'as pas le droit de te soigner. Tu es malade, tu es blessé, tu ne disputes plus ton sport, tu te soignes et tu reviens après. Je ne vais pas mettre en doute jamais la supériorité, le talent des monstres que sont Nadal et Djokovic. Depuis deux décennies, ils ont fait entrer le tennis dans une autre dimension. C'est son dimanche champion. On parlera encore d'eux dans un ou deux siècles. Maintenant, comme ça a été le cas pour le cyclisme et d'autres sports avant eux, moi, il me reste un drôle de goût dans la bouche après ces victoires, et notamment celle de Djoko. Savoir qu'un champion qui débute un tournoi avec une déchirure musculaire de 3 cm, vous êtes sportif de haut niveau, vous savez ce que c'est, Sarah, David, une déchirure musculaire de 3 cm, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux rien faire. Et le voir courir comme ça, gagner match après match, dire ouais, je souffre, mais j'y arrive. Et le voir gagner ce tournoi en nous disant voilà, je me suis réparé. Alors il le dit pas, mais c'est ce que laisse entendre la presse, qu'il aurait donc fait appel à cette docteur Ferrari du tennis, Mariana Kovacevic, qui utilise du placenta de cheval pour réparer ça. Alors moi je sais pas, il y a plus plusieurs médecins qui ont été interrogés par le journal L'Équipe à la suite de ça. Alors on en parlait avant l'antenne avec Sarah, elle me dit que c'est pas vraiment quelqu'un de très sûr. Olivier Rouillon, qui est l'ancien médecin du Racing, qui explique que tout ça c'est une énorme blague, et de préciser ça ne marche pas, vous ne pouvez pas avoir raison contre le monde entier, en particulier en médecine. Voilà ce qu'il pense des méthodes de cette dame qui a aussi soigné des joueurs de foot par le passé. Alors je ne dis pas que c'est du dopage, mais j'aimerais bien en savoir plus. J'aimerais bien que, à la différence de ce qu'il n'a pas fait il y a deux ans, lorsqu'il nous avait dit, après sa blessure aux abdos, je vais tout vous expliquer, je vais sortir un documentaire qu'on n'a jamais vu, j'aimerais bien qu'il nous explique comment il se soigne et si c'est autorisé de se soigner de la sorte.
Ok, voilà. Sarah Pitkovski, remontez sur le sujet.
Je trouve toujours ça étrange que lorsque Nadal est blessé, c'est une victime. Et lorsque Djokovic est blessé.
C'est pas vrai.
Ah non, pas du tout.
Nadal
n'était pas une victime. Rappelle-toi, quand il a gagné Roland Garros, tout le monde est tombé sur le dos.
Oui, mais la manière dont on traite la gestion des deux, on a toujours l'impression qu'il y en a un qui va être victime et l'autre qui est... Où on jette la suspicion quand même assez facilement.
Arrête, la suspicion, elle a toujours été jetée sur Nadal, Sarah.
Bien sûr.
Mais bien sûr.
Même par des ministres de la République. Donc,
oui, non, mais ça, c'est il y a quelques années. Il y a quelques années.
Mais bon, ça reste dans les esprits, je suis désolé.
Oui, mais sur ces blessures, je trouve que Djokovic est héroïque, en fait. C'est-à-dire qu'il passe au-delà de ça. Après, on n'est pas médecin. Ok, on n'est pas médecin. On fait des analyses qui sont super raccourcies. Les 3 centimètres, moi, je veux bien le voir. Comme le disait Eric, on ne sait pas quand il a eu sa déchirure. Donc, en fait, je trouve que la remise en cause systématique de Djokovic, et ça, c'est depuis qu'il est arrivé sur le circuit, parce qu'il a un côté, et ça, on est obligé de se l'avouer, il a un côté où j'en rajoute et j'en fais des caisses. Quant à l'US Open, il se roulait par terre parce qu'il ne pouvait plus respirer, parce qu'en fait, il a découvert qu'il avait des allergies alimentaires et il se trouvait à jouer au tennis avec les petites pinces que les nageurs ont pour pouvoir avoir plus d'air et d'oxygène sur le court. On se souvient quand il avait joué contre Gaël, mon fils, il était sorti je ne sais pas combien de fois du court. Il a effectivement une attitude qui porte à confusion. Mais pourquoi remettre systématiquement en cause ses blessures? Et là, on en est même à dire, en fait, il aurait suivi les règles pour gagner son 10e Grand Chelem à l'Open d'Australie. Ça me gêne. Ça me gêne profondément.
Oui, mais voilà. Alors, ça te gêne
c'est parce qu'il n'y a aucune preuve.
Un joueur blessé de la sorte récupère mais parce que ça en va jouant vite. Des matchs en 5-7, récupère
mais on ne sait pas. Craig Tiley, il nous dit ce qu'il a envie de dire. Ivan Zinevic, il nous dit ce qu'il a envie de dire. On a envie.
Mais
tu sais pourquoi? Parce qu'il est tellement jeté en pâture qu'en fait, ceux qui le protègent veulent en faire un héros et pour moi, ils en rachent.
Sarah, ça participe du cirque. C'est-à-dire que le patron de l'Open d'Australie arrive en disant mais attendez, il avait. Est-ce que c'est à lui de le dire? S'il le dit, c'est que Novak Djokovic est forcément au courant.
Non.
Donc ça participe du côté regardez notre héros comme il est. Alors que ça fait il y a un an, ils l'ont jeté comme un bal propre de l'Australie. Oui.
Tu viens d'avoir une fulgurance. C'est fabuleux. C'est intéressant d'assister à ça quand un journaliste a une fulgurance.
Bravo.
Non mais il faut le souligner.
C'est impressionnant. C'est incroyable.
C'est impressionnant.
Avoir en vrai, c'est vrai que c'est
bon. Et même là, je sens le souffle de ton intelligence. Franchement. Non, sincèrement, c'est la vraie question. Parce que moi, je me disais, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire, machin, etc. Mais qui parle? C'est le patron du tournoi. Et qui a besoin d'une histoire? On est en plein marketing, en fait. Et on tombe tous dans le panneau, comme des blaireaux. Voilà. Je t'ai pas entendu, Simon, mais peut-être que tu aurais eu cette deuxième fulgurance en second souffle.
Pas sûr. Ce genre de fulgurance, ça n'arrive qu'une fois.
Une fois par an.
Non, mais je me dis, voilà,
t'as
soulevé le truc.
Vas-y.
Qui balance le truc? C'est Greg Taylor. Le patron du tournoi. Il a besoin de ça. Il a besoin qu'on raconte une histoire, parce que son tournoi, il a lieu chaque année. C'est la même ritournelle. C'est quasiment les mêmes athlètes, les mêmes trucs, les mêmes points, les mêmes machins, etc., etc., etc. Quand une marque a besoin de faire émerger quelque chose, un produit, quel qu'il soit, aujourd'hui, c'est de construire une histoire. Plus que la performance, c'est qu'il y ait une histoire sur laquelle on peut se raccrocher avec une dramaturgie, une peur, une frustration, etc., etc. Et il n'y a que comme ça qu'on a de la consistance et qu'on peut vendre un produit. C'est exactement ce qui se passe. On a tous les ingrédients, là, pour ce tournoi, pour que ce produit soit vendu d'ores et déjà pour l'année prochaine. Pour qu'on parle de l'Open d'Australie et qu'on dise Djoko, il s'est passé ci, Biduli, il s'est passé ça, et il a fait ci, il a fait ça, et on en parle, et on en rajoute.
Mais ça t'agace pas, toi, David?
Mais ça, c'est formé. Mais non, ça, oui.
Ça fait une semaine qu'il a gagné, on parle que de ça, que de sa déchirure.
Mais tu as raison, c'est du vent. Mais on tombe dans le panneau, quoi. C'est ça le problème. Et le truc. Arrêtez de nous prendre pour des blaireaux. Voilà, en fait, c'est ça que j'ai envie de dire ce matin. Arrêtez de nous manipuler. Arrêtez de manipuler nos émotions en nous disant, voilà, il a une blessure, il a pas de blessure, il a un état d'âme, pas d'état d'âme, il le dit pas, il va le dire, il va prodiguer des images, etc. En fait, on monte un scénario pour rallonger la sauce, quoi, en permanence. Or, bon, bah, la sauce, voilà, c'est un fabuleux tournoi, on va passer à l'autre tournoi et puis c'est tout. C'est comme ça que ça doit être pris et pas en faire des tonnes et des caisses et des smirmorques pour pas grand chose, quoi. Voilà.
Je m'empresse de vous citer Andy Roddick en 2008, hein. Rendez-vous compte, c'était il y a 15 ans. Et ensuite, Simon, évidemment, tu pourras prendre la main. Voici ce qu'il disait à propos de Novak Djokovic, qui avait une mauvaise réputation déjà. Les deux chevilles, le dos, la hanche, des crampes, la grippe aviaire, l'anthrax, le SARS, une toux ou un rhume, soit il appelle facilement le kiné, soit c'est le mec le plus courageux de tous les temps. Ben, force est de constater que 15 ans après, on se pose encore la question, je trouve. Ouais, mais Simon Dutin.
Je suis partagé parce que au départ je pensais comme David, je me disais quel intérêt aurait le patron du tournoi, sachant qu'ils ont mis les autorités australiennes avaient mis Djokovic dehors l'an dernier pour les raisons qu'on sait, quelle raison il aurait eu d'inventer ça. Effectivement, est-ce que ça sert l'Open d'Australie ou pas, le mythe finalement du mec qui aurait gagné, ou est-ce qu'au contraire tu prends pas le risque de placer justement ton édition sous le signe de la suspicion ou quoi. Alors faut rappeler qu'il y a deux ans Djokovic il gagne déjà en 2021 et il nous vend, c'est exactement le même scénario, hein, il nous raconte qu'il a gagné avec une lésion de 2,5 cm aux abdominaux et derrière
ça monte crescendo. Alors on est à 3.
Ouais, mais Muratoglou avait dit mais comment ça, mais on peut pas et tout. Alors les mecs nous disent maintenant, les spécialistes interrogés ici et là nous disent de toute façon déchirure ça veut rien dire, on parle de lésions musculaires de grade 1, 2 ou 3, alors tu t'as pas le double décimètre pour aller mesurer la taille. Djoko, faut quand même rappeler que c'est quand même le spécialiste. Il a besoin de ça. Il s'est construit lui enfant pendant la guerre des Balkans. Tous les ans sur le circuit, il fait le coup de la panne, le coup de la blessure, les interruptions et très souvent les mauvaises langues où ses détracteurs disent quand il est mené, qu'il est mal embarqué dans un match, il y a toujours ce petit retour au vestiaire ou l'appel du kiné et tout, et puis il revient et il déroule et il gagne et il fait croire qu'il était blessé. Est-ce qu'il se fait croire à lui qu'il est blessé et qu'il a besoin de ça en fait pour hausser le curseur et son niveau, ou est-ce que c'est pour influer sur ce que l'adversaire se dit, rapport à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ceux de Teddy Riner éventuellement. Donc moi je vois pas quel intérêt il aurait créer ce mythe-là. Qu'il soit blessé, oui, effectivement. Après, en revanche, il y a des choses, la médecine a pas attendu Djokovic et les inventions peut-être de son staff pour exister. Il y a une médecine, si c'est 3 cm, il y a des mecs qui te disent c'est pas possible. Donc il était certainement blessé, peut-être un peu moins que ce que son clan
veut bien nous dire.
Affirme, mais effectivement, là où je suis pas du tout d'accord avec ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, tout Nadal qu'il est, le Mr. Nice Guy et tout, il y a quand même cette espèce de suspicion, culture, Tour de France et scandale, qui fait que désormais, on veut savoir si la médecine est compétente ou si les mecs ont pas triché. Même Nadal, figure-toi, chez lui à Roland, on s'est dit, c'est pas net quand même, alors que c'est le meilleur joueur de terre battue de tous les temps. Donc moi, c'est polémique déjà. De
c'est une petite musique qui revient systématiquement.
Je suis pas sûr que ce soit Djoko qui entretienne ça, et je pense que la vérité elle est comme très souvent à mi-chemin. Il y a des déclarations, il y a le marketing, je vois mal Djokovic inventer de toutes pièces une histoire de blessure.
David Douillet.
Le schéma il est extrêmement clair. Thaïlé, sa marque c'est l'Open d'Australie, et plus on en parle mieux il se porte, quels que soient les sujets. Djoko, sa marque, c'est lui-même, et plus on en parle, mieux il se porte, quels que soient les sujets. Point. Il y a pas grand-chose d'autre.
Je suis d'accord avec toi, David. En plus, c'est l'histoire de ces 15 dernières années avec ces trois grands monstres que sont Federer, Nadal et Djokovic. En fait, on les a rentrés chacun dans une case, et celle de Djokovic, il l'a pas vraiment choisie, en fait. T'as le bon, t'as la brute, et t'as le truand. Et le truand, on l'a collé sur l'étiquette, sur le front de Djokovic. Et il a
Il est pas obligé de jouer le rôle, hein.
Non, il l'a joué au début, quand il est arrivé sur le circuit, il se moquait des joueurs en les imitant. Parce qu'en fait, il cherchait.
Mais ça lui a été reproché, mais par les joueurs eux-mêmes.
Oui,
c'est pour ça qu'il
a arrêté.
Mais pour les médias, c'était super.
Mais oui, c'était super, mais il faut te faire accepter par ton milieu et par le public.
Oui,
et en fait,
j'entends.
Djokovic n'arrête. En fait, il a joué. Il jouait, il gagnait, et il attendait de l'amour du public, en fait. Et il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à l'avoir. Donc il s'est construit avec autre chose. Il a une étiquette, et en fait, on remet systématiquement en cause un côté un peu, peut-être,
Sarah,
effectivement, de ses origines.
La ficelle, elle a un gros.
Mais le problème, c'est que les médias.
Du héros magnifique, incompris,
Pourquoi on en parle encore une semaine après? On est ailleurs, là, on est sur la Coupe Davis.
Ah bon?
Bah voilà.
Mais
la quoi? Bah si, on va en parler.
La quoi?
Si.
Sarah.
Non, mais souviens-toi de la bouteille récemment. Je suis désolé, Djoko.
Ouais, sur ma
Djoko, il y a un petit côté genre les loulous, là, les loulous des Balkans, les combines à Djoko avec son clan. Dans son entourage, il y a 2-3 mecs qui ont le crâne rasé, qui passent pour des bandits. Et il y a quand même cette petite musique. Je suis d'accord. Moi, je suis pas loin d'être un fan de Djokovic. Mais il y a quand même le côté les loustiques de Belgrade qui nous enfument et qui mentent, qui simulent des blessures encore une fois tout au long de l'année, et on ne sait pas bien ce qu'ils mettent dans leur bouteille. Bon, et évidemment, ça continue à gagner, ça agace beaucoup de gens.
Tout ça concourt à l'entretien d'une image. C'est du marketing pur et dur. Et Sarah a raison. Au départ, c'était singer les autres, etc. Il a trouvé son créneau, il trouve son créneau, mais ça se valorise par de l'argent à travers des marques. Point la ligne. C'est tout ce qui l'intéresse.
On a entendu assez d'experts médicaux, consultants santé RMC, c'est mon papa, il est radiologue, et je lui ai demandé parce que j'y connais rien. Il m'a dit, on voit ça sur une échographie ou une IRM, quand t'as joué et gagné, non, je ne vois pas ça possible. Donc, encore une fois, il y a des choses établies en médecine.
Tu ne peux pas voir la déchirure.
Si, la déchirure, ce qu'il me dit, tu la vois à l'échographie ou à l'IRM, et si elle fait 3 cm, tu peux pas, visiblement, tu ne peux pas jouer et gagner à ces niveaux-là.
Il va fournir les documents, c'est ce que nous dit Novak Djokovic, et évidemment, on attend ou pas, tu as bien
c'est
raison.
C'est du marketing.
Ok. 10h27, on se retrouve dans quelques instants. Scandale sur le Vendée Globe. Vous allez voir, une histoire incroyable contée par Pierre Amiche, ça l'a rendu fou furieux. Et puis dans 20 minutes, le débat caché, vous ne savez rien. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet.
10h32, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci de votre fidélité. Toujours avec David Douillet, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Simon Dutin dans une dizaine de minutes. Restez bien avec nous. Ce sera l'heure du débat caché. Le guet-apens. On sera ensemble tranquillement. Un débat totalement à l'aveugle. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir tout vous dire. Restez avec nous. C'est dans moins de 10 minutes.
On a des doutes.
Vous avez des pistes.
On aura le droit d'essayer de deviner.
Évidemment.
On peut faire jeu des devinettes.
Oh
aussi.
Non, vous n'aurez pas le droit. Vous ferez ça dans une autre émission. 10h33, c'est l'heure de faire entrer Pierre Amiche.
RMC. L'homme en colère. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Pierre Amiche,
bonjour.
Bonjour à tous.
T'es pourquoi en colère aujourd'hui?
C'est un fameux 3 mars. Dès que je parle de voile, je suis tout excité. Accrochez-vous, on va parler de femmes enceintes, de jeunes mamans sportives et d'égalité hommes-femmes. Rassurez-vous, vous êtes toujours sur RMC, toujours avec Christophe Cessieux. Cette semaine, je suis un homme en colère contre le petit monde de la voile et des marins. Pour faire une course en bateau, il y a 3 entités distinctes. Les marins, qui prennent tous les risques, les sponsors, qui mettent de l'oseille, et puis les organisateurs qui organisent, je vois pas bien quel est leur rôle, on s'en fout de ça. Or, cette semaine, 2 des entités susnommées sont passées pour des machos opportunistes et des fumiers inflexibles. Et globalement, oserais-je l'écrire dans une chronique, des fiefés boomers qui tombent un peu à côté de leur époque. Alors jeudi, comme ça, en pleine paix, à 1 an et demi du prochain Vendée Globe, Banque Populaire, un des gros sponsors qui met beaucoup d'argent, se fend d'un communiqué pour expliquer pourquoi il débarque la brave Clarisse Kremer. Le Vendée Globe, c'est terminé pour elle. En gros, il comptait vraiment très fort sur la navigatrice pour 2024, mais le règlement a changé. Il faut maintenant marquer des points, accumuler des 1000 pendant 3 ans pour prétendre à une place au départ des Sables d'Olonne. Or, le patron de Banque Populaire est très clair. C'est impossible pour Kremer. Impossible parce que Clarisse, eh bien, elle est devenue maman. Bon, faut pas être fufu pour capter que les courses au large et l'allaitement, c'est un petit peu incompatible. Selon son sponsor, elle n'a pas pu accumuler suffisamment de courses pour se qualifier. Ronan Lucas, le patron de Banque Pop, explique, je cite, « On est à 0 000 et ceux devant sont à 1 600. Ces gens-là feront les mêmes courses que nous, on ne les rattrapera jamais et ce sont 42, 43 personnes qui sont devant. Ça veut dire que la 40e place est loin parce que tous les projets devant nous ont participé à la dernière Route du Rhum. » Alors vous me direz, parce que vous êtes des gros malins, pourquoi est-ce que Monsieur Lucas ne demande pas à l'organisation du Vendée de faire un geste? Eh bien, il l'affirme, il l'a fait. Mais du côté de Alain Leboeuf, le président du Vendée Globe, on est sur la ligne du Ralex et de l'Ex. Hein. La loi est dure, mais c'est la loi. Il explique lui aussi, l'organisation de la course ne peut en aucun cas se permettre de changer les règles alors que le processus de sélection est engagé. Quant à la wildcard, c'est une possibilité, mais celle-ci ne pourra pas être donnée avant la fin du parcours de sélection, puisque le Vendée Globe ne connaît pas les skippers qui pourraient demander une wildcard. En résumé, c'est pas mort, c'est quand même pas bien engagé. Alors on va pas lancer le concours du plus borné ou du moins courageux, parce que le sponsor qui prend peur de pas avoir de bateau au départ, c'est pas terrible. L'organisateur qui croit que avoir du cœur n'est pas conciliable avec avoir des principes, c'est pas terrible. Et c'est pas comme si les bateaux regorgeaient de nanas et de nanas en âge d'avoir des enfants. Il y a qu'une seule femme concernée. C'est pas créer un régime d'exception terrible. C'est pas faire jurisprudence. C'est juste ouvrir une porte et ils passent pour des abrutis. Au bout d'un moment, ce qui fait rêver les gens, c'est pas les records, c'est les histoires. Et celle d'une maman courage qui brave la tempête, c'était magique. Et puis Banque Populaire qui dit, je cite, être attaché aux valeurs de mixité et d'égalité des chances, mais qui tège une maman parce qu'ils ont peur de pas pouvoir avoir une voile à leur nom. Ça aurait été tellement plus classe de dire, eh ben on y sera peut-être pas, mais on va pas lâcher Clarisse et son petit bout. On espère que le Vendredi sera conciliant, mais on va y aller à fond parce qu'on croit en elle. Le problème, c'est que dans l'affaire, on prive une femme de compétition uniquement parce qu'elle a eu un enfant. Et rien que cette phrase suffit à montrer la bêtise de la situation. Rien ne devrait justifier qu'on puisse écarter une femme de où que ce soit parce qu'elle est devenue maman. Jamais la course au large n'aura semblé aussi loin de la terre des hommes, celle avec un grand H et un petit cœur. Baudelaire écrivait « Homme libre, toujours tu chériras la mère ». J'aurais aimé qu'il écrivit « Homme libre, toujours tu chériras les mères ». Je t'embrasse, maman.
Ma mère est là, quelque chose.
Merci Pierre Amiche pour cet homme en colère. Scandale sur le Vendée Globe autour du sort de Clarisse Kremer. Les GG, vous allez devoir vous déterminer. Est-ce que vous aussi vous êtes en colère? Mais en colère contre le sponsor ou contre l'organisation? Christophe Cessieux.
Tort partagé.
Tort partagé, très bien. Sarah Pitkowski.
Non, pas tort partagé, non, en colère.
Mais contre qui?
Bah contre...
Le sponsor ou l'organisation?
Plutôt contre le sponsor.
Plutôt le sponsor, oui. Banque Populaire, ok. Simon Dutin.
Je suis en colère ni contre le sponsor, ni contre l'organisateur, ni contre Clarisse Kremer.
Ok.
C'est quoi ce débat?
On a changé
là.
Simon, okay. Là.
David Doulet.
Non mais, il y a que des Normands ce matin ou quoi? C'est pas possible. Moi je suis en colère contre l'organisation.
L'organisation, il y a du sponsor, il y a de l'organisation, tort partagé. Je vais aller voir Sarah, pourquoi contre le sponsor?
Contre le sponsor parce que je pense qu'ils étaient au courant, ben, c'est pas je pense, ils sont au courant et qu'en fait le choix de casser le contrat entre Banque Populaire et la skippeuse, même si on le dit pas comme ça, qu'ils ont choisi pour remplacer Armel Lecléache lorsqu'ils gagnent le Vendée Globe et qu'ils partent sur le projet de construire un ultime, ils choisissent Clarisse Kremer pour des raisons qui sont, on veut effectivement être une marque de communication, mais en tout cas montrer qu'on est dans la mixité. Mm-hmm. Clarisse Kremer a fait un Vendée Globe où elle termine 12e, première femme, et elle a été, en termes de communication, valorisée des millions et des millions pour Banque Populaire.
Exactement.
Ok, c'est-à-dire qu'ils ont leur investissement.
Très bonne en communication d'ailleurs.
Excellente.
Super communicante.
Communicante. Et donc en fait, à la fin d'un Vendée Globe, ce que font les marques, ils valorisent leurs retombées. Et donc ils avaient eu les retombées d'Armel Lecléache sur le Vendée Globe précédent, et ils sont pas si loin de celle avec Clarisse Kremer, alors que on a
alors
un vainqueur.
Avec une différence de résultat, quand même.
Avec une différence de résultat. Et là, en fait, il y a eu, gagné. Au sein de Banque Populaire, le projet voile, il y a eu dissonance. C'est-à-dire qu'il y a le projet sportif qui dit, nous, on veut jouer la gagne.
Et on jouera pas la gagne.
Et il y a les communicants qui disent, mais non, on a la bonne personne, en fait. Et ces deux entités-là, elles se sont battues, puis il y en a une qui a gagné.
Okay.
Et voilà. Donc, et le projet sportif,
pour toi, c'est un prétexte.
Pardon.
C'est un prétexte qui a été utilisé par Banque Populaire pour
après,
dégager.
Après les prétextes, tu peux les trouver sur la modification.
Parce qu'elle n'est pas assez performante pour espérer.
Mais parce que Clarisse Kremer, elle ne va pas jouer la gagne.
Ouais.
Elle ne va pas jouer la gagne. Okay. Voilà.
En colère contre l'organisation, David Douillet.
Oui, Sarah a raison dans le sens où, et je le rappelle, c'est le même dispositif qu'avec Joko. Les marques aujourd'hui, Banque Pop, ont besoin d'une histoire. Ils préfèrent avoir une superbe histoire plutôt qu'un titre. C'est évident. Ça fait couler beaucoup plus d'encre, etc., etc., etc. C'est évident. D'où ils ont pensé ce choix sur Clarisse. Moi, je me suis mis à la place du sponsor. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et qui plus est, un banquier. Un banquier, c'est quoi? Son métier, c'est de, en général, jauger les risques. À partir du moment où un organisateur crée une nouvelle règle en disant, voilà, si vous n'avez pas fait X miles en course, etc., etc., bah, vous ne pouvez pas y sélectionner, etc. Imaginez que le Banque Pop se dise, on va forcer la porte. On va outrepasser ce nouveau point de règlement, et on va demander aux organisateurs de prendre notre navigatrice. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont morts. La belle histoire, elle n'existe plus. C'est-à-dire que on va les accuser d'avoir outrepassé un règlement qui a été écrit par des professionnels de la navigation, les organisateurs, et il y a eu un souci, le souci d'une jeune maman qui n'aurait pas suffisamment couru, donc préparé sa course l'année qui précède l'événement, mais tout leur retombe dessus, c'est la cabane sur le chien. Ils ne peuvent, les sponsors aujourd'hui, n'avaient pas d'autre choix que de prendre ces décisions, malheureusement.
David, il ne découvre pas aujourd'hui faute, ce règlement. Il ne découvre pas faute, que Clarisse, elle a accouché, elle est maman depuis l'hiver dernier.
Mais ils ont mis longtemps, à réfléchir, tout simplement.
Tu mets pas longtemps à réfléchir, tu connais
mais
les... Elle a prévenu, elle n'était pas obligée de le faire. Elle a prévenu en début d'année de l'année dernière qu'elle était enceinte. Elle aurait pu le cacher jusqu'au dernier moment. Elle les a prévenus, donc elle re-signe son contrat avec Banpop, et ils sont au courant qu'elle est enceinte, ils savent quand est-ce qu'elle va accoucher et ils savent aussi quand est-ce qu'elle va reprendre.
Ils connaissaient déjà le règlement de.
Mais oui, le règlement, il tombe pas du ciel. Donc en fait, ils avaient tous les éléments. Pourquoi ils mettent 9 mois ou 10 mois pour prendre une décision?
Mais parce que t'es dans une énorme boîte, comme d'habitude, et tu sais très bien qu'une énorme boîte.
Et bah alors t'assumes tes choix que tu fais au début.
Mais t'es dans une grande administration où il y a les chefs, les N-1, -2, -3, -15, tout le monde.
Et c'est ce que je te dis, ils se sont confrontés. Il y a des positions qui sortent le parapluie,
mais au bout du tuyau, ils sont contraints de prendre cette décision. Okay. Ce sont des banquiers, ils gèrent le risque, et le risque, c'était celui-là.
Et le risque était trop grand de ne pas participer à la course, on a bien compris ton avis, David. Avant d'aller voir Christophe, pour lui, tort partagé, je voudrais interroger Simon Dutin, absolument pas en colère, mais sur personne, et contre personne surtout. Pourquoi ?
Non, moi j'aime pas ces histoires de manichéisme, j'en ai ras-le-bol. Effectivement, c'est le sens de l'histoire, désormais. On se jette là sur ces polémiques, évidemment. Quelle bande d'enfoirés, alors. Alors, vous rendez compte, ils ne respectent pas la maternité d'une femme. Ils voient la faiblesse de la femme, ils la mettent à l'écart. J'en ai ras le bol, vraiment, qu'on se jette sur ces choses-là. Banque Populaire. On n'a pas fait un débat ici le jour où Banque Populaire a confié la barre de son bateau à Clarisse Kremer, qui n'était personne dans le monde de la course au large, et Banque Populaire, qui est un des plus gros sponsors et un des plus gros noms dans le monde de la voile. On sait comment ça marche. Là, on dit oui, c'est des grands groupes, c'est des grandes sociétés, mais attendez, on va pas faire les vierges effarouchées. On sait qu'il y a besoin de pognon pour partir dans la course au large, et la confiance qu'ils ont affichée à Clarisse Kremer jusqu'à la dernière édition du Vendée Globe. Bon, j'ai entendu personne monter sur les pupitres en disant ouais, Banque Populaire formidable, quelle image, le progrès en marche, le progressisme, il y en a marre de ces loups de mer, ces barbus alcoolo machin.
Non, non, ça n'a pas été dit comme ça, mais ça a été salué.
Banque Populaire, ils ont quand même l'habitude de gagner. Bon, ils font 12 et c'est une superbe performance pour elles, mais c'était nobody, Clarisse Kremer, avant. Donc, encore une fois, moi, dans cette histoire, ce que je vois, c'est que le plan de com' s'est pas déroulé comme prévu. Donc, les mecs, ils ont effectivement, tu les sens bien emmerdés. Ils sont en train de sortir l'extincteur, enfin, ou les pare-battages, hein, puisqu'on parle de voile. J'ai entendu le directeur de la com' sur BFM, justement, qui était là, qui parlait de tristesse et d'abattement. T'as envie de lui dire, allez, vas-y, gros, vas-y, tranquille, tu vois. N'en rajoute pas non plus. C'est bon, on a pigé qu'elle vous avait court-circuité, parce que elle, effectivement, tu peux pas l'empêcher d'y voir ce qu'elle considère comme une décision sexiste et qui doit très certainement, en fait, partir d'une immense, on se met à sa place, déception. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un règlement, et c'est ça le problème, c'est ce règlement de qualification qui court sur plusieurs années avant et qui précisément empêche les concurrentes féminines d'envisager une maternité si elles veulent se présenter au Vendée Globe. C'est un concurrent, en l'occurrence une concurrente, qui ne remplit pas les critères de qualification. Elle ne remplit pas les critères de qualification parce qu'en effet, elle a accouché. Si elle s'était fait une double fracture de la jambe, elle pourrait pas se qualifier. On serait pas en train de dire, ah, le Vendée Globe, c'est des sexistes, ils veulent pas
de nada sur le pont. Donc, t'es en train de donner un argument qui fait qu'aujourd'hui,
je pense que le Vendée Globe, avec leur partenariat, l'image qu'ils ont dans le monde, je pense que c'est les derniers à se dire, les premiers à se dire, on n'a pas besoin d'une affaire comme ça. Et je pense que
tu sais ce qu'ils viennent de sortir ce matin comme communication, Vendée Globe?
J'ai vu que le patron, le boeuf,
dit, la wildcard peut être pour Clarisse Kremer. Donc là,
ça, on le savait déjà depuis
le premier jour. Si jamais il lui arrive le moindre problème, je peux dire que là, ça va être.
Et j'allais en terminer comme ça. Il y a encore l'espoir qu'elle participe parce qu'il y a des invitations.
Il y en a une.
Tu penses qu'ils vont la donner à qui, Jean Le Cam?
Il se déjoue.
Ah, okay. Ce serait, et ce serait tout aussi mérité que pour
Jean Le Cam et Clarisse Kremer, tu la files à qui?
Je sais pas, mais en tout cas, t'inquiète.
La
cote de Clarisse Kremer vient sérieusement de remonter.
Notre spécialiste voile, c'est quoi ton regard sur cette histoire?
Pour l'image de la voile en général, un sport qui véhiculait jusque-là des valeurs humanistes, des valeurs d'aventure, d'entraide, je trouve que ça la fout mal parce que c'est pas la première histoire et c'est pas la première épine dans le pied qu'il se fourre là depuis quelques mois. Rappelez-vous de cette petite polémique, ce psychodrame entre François Gabart et ses adversaires il y a quelques semaines au départ de la Route du Rhum, lorsque tous s'étaient ligués contre Gabart pour pas qu'il puisse participer à la course sur un problème de règlement. Déjà, ça la foutait mal. Mais là effectivement, vu l'atmosphère dans laquelle on est, là ils se sont mis une épine dans le pied terrible, et on a l'impression que les intérêts financiers et sportifs sont en train de tuer cette discipline, comme ça a déjà été fait dans d'autres sports. Maintenant, sur le fond, je trouve que les torts sont partagés. Tout le monde se renvoie d'ailleurs la patate chaude, hein. Essaye de ouh là, c'est pas moi, c'est lui. Les organisateurs qui font ce règlement et ne veulent pas y déroger, alors que dans les éditions précédentes il suffisait de terminer un Vendée pour être autorisé à faire le suivant. T'étais finisher, et ben t'avais le droit de participer au suivant. Là, ils ont
changé. Le règlement a changé pour 2024.
Ils ont changé le règlement. Tu comprends pas pourquoi ils ont changé le règlement. Peut-être parce qu'il y a un formidable succès du Vendée Globe. Je crois qu'il y a 40 bateaux qui vont y participer. Oui. On était à 20, on était à 15 les années précédentes. Et là, ils sont obligés de limiter. Donc ils limitent comme ils peuvent. Mais moi, je pense, et comme le disait Sarah tout à l'heure, je pense que pour Banque Populaire, c'est plus un prétexte qui a été utilisé pour écarter cette navigatrice. Excellente communicante, géniale. Hein, je me rappelle l'avoir interviewée. Elle est sympa, elle est jolie, elle a la pêche.
La question
c'est
une n'est
super
pas là,
nana. Mais Banque Populaire a toujours eu des skippers de premier plan, des skippers qui sont là pour gagner les courses. Et je pense que Clarisse n'est pas encore. Quoi, Banque Populaire, ils ont jamais eu des skippers pour gagner des courses.
Banque Populaire, ils ont tout gagné. Banque Populaire, ils ont besoin d'histoire.
Ils peuvent ne pas gagner. Maintenant, il faut.
Mais ça fera. Mais sois pas naïf. Il y aura beaucoup.
Arrête de nous faire prendre pour des naïfs et pour des débiles.
Mais non, mais Christophe, mais je me mets dans l'eau si tu veux. Ça me dérange pas. Non, mais sincèrement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. T'es un consommateur comme moi, et moi, je me mets dans l'eau aussi. Sincèrement, on se fait piéger par des gens qui font de l'image, du marketing. Aujourd'hui, Banque Pop, ils ont besoin d'une histoire. C'est beaucoup plus fort qu'une victoire. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça.
Ok, on va terminer sur ce débat. On reparlera de cette histoire, évidemment. Toutes les informations sont à retrouver sur rmcsport.fr. Dans quelques instants, restez bien avec nous, chers auditeurs. Dès que vous entendez cette musique, le débat caché arrive. Les GG ne savent rien et vont découvrir un débat dans quelques instants, en direct, en live. C'est une première à la radio française. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h50, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec David Douillet, Sarah Pitkowski, Simon Dutin, Christophe Cessieux. À partir de 11h, le bras de fer des GG autour de notre 15 de France qui débute demain son tournoi Destination. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre nouveauté, c'est l'heure du guet-apens.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir tout vous dire.
Ce qu'on avait juste.
Pour la première à la radio française, bien un sûr. Débat caché, le débat mystère, les grandes gueules du sport se retrouvent comme Gilbert Montagné et un saumon sauvage, totalement à l'aveugle et sans filet. Le guet-apens du jour. Raphaël Varane a pris cette semaine sa retraite internationale. À seulement 29 ans, voici l'une des raisons évoquées, c'est très fort, le défenseur l'explique, Canal+. Raphaël Varane.
J'ai décidé d'annoncer ma retraite internationale, donc cette date sera forcément marquante dans mon histoire, dans ma vie. J'ai tout donné, physiquement, psychologiquement, mais le très très haut niveau, c'est une machine à laver. On joue tout le temps, on s'arrête jamais. Voilà, on a des calendriers qui sont surchargés. On joue non-stop Et en ce moment, voilà, j'ai l'impression un peu d'étouffer. Et le joueur qui est en train de bouffer l'homme.
J'ai l'impression d'étouffer. Son discours est-il audible? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui.
Simon Dutin.
Oui.
David Douillet.
100% oui.
On peut être d'accord, les copains. Sarah Pitkowski.
Bah, bien sûr que oui. Vous êtes en train de remettre en cause un Lillois. Vous êtes dingue ou quoi?
Ah oui, pardonne-nous, mais qui a quand même joué à Lens?
Oui, bah, c'est pas ça grave, compte c'est pas. Grand Nord. C'est le Grand Nord.
Ok.
C'est
pour tout le monde, le discours est audible. Alors, ouais. Je vais y aller.
Je vais dire oui, mais allez.
Non, mais c'est même pas oui, mais moi, je vous réponds et je vous donne un argument. À 29 ans, Raphaël Varane, immense champion, je n'arrive pas à entendre son discours, sachant qu'une carrière peut s'arrêter à 33, 34, 35, 36 ans. Ne pas refuser désormais l'équipe de France, je trouve que c'est inaudible. Mais c'est à vous de jouer. Christophe Cessieux, pourquoi c'est audible?
C'est audible parce que, je suis désolé, il a rendu de fiers services à la nation. Il a porté le maillot de l'équipe de France. Je sais pas combien de sélections, j'ai pas pu travailler sur
93.
Le dossier. 93, c'est quand même énorme. Ça fait des années qu'il est là. On arrive à une bascule, hein. Il a disputé les deux dernières Coupes du Monde avec Deschamps. Il y a beaucoup d'anciens joueurs de sa génération qui s'en vont, les Lloris, les Mandanda.
Mais ils n'ont pas le même âge. Mandanda, il a 37 ou 38 ans.
Mais c'est pas grave, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de nombre de sélections, c'est une question d'aventure, de ressenti, de feeling. La plupart de ses copains s'en vont. Alors, c'est certes, on lui promettait sans doute le brassard de capitaine de cette équipe de France, mais je suis désolé, quand tu as eu 93 sélections, tu peux t'en aller en disant au revoir, messieurs. C'est ce qu'aurait dû peut-être faire Didier Deschamps, il n'a pas voulu le faire. Mais ses joueurs, on le sent, sont arrivés au bout de l'aventure. Il y a une nouvelle génération qui est en train de se mettre en place, et ben voilà, il préfère s'arrêter. On va pas, je veux dire, un militaire qui rend service à la nation pendant un nombre de
militaires là. On parle d'un joueur de foot qui joue pour l'équipe de France. Qu'il arrête sa carrière en équipe de France alors qu'il continue sa carrière en club, personnellement, je n'arrive pas à le comprendre.
Tu as entendu l'argument qu'il a dit? Il a dit,
le joueur est en train d'étouffer l'homme.
Il est en train de dire, on est dans une machine à laver. Ouais. Il est dans une machine à laver. Il y a trop de compétition. Il est papa pour la troisième fois. Il a le droit à un moment, à 29 ans, de se dire, je me concentre sur mon championnat, je me concentre sur mon club. Et je vais te dire un truc, je suis pas sûre que ça soit totalement définitif. Il y en a qui sont revenus.
Mais c'est ça qui me gêne, c'est que Raphaël Varane, suis sûr qu'il le pense, et tout ce qu'il dit, ça vient du cœur. Non, mais je évidemment.
C'est un dictateur, en fait.
Mais non,
il faudra que ça gêne.
Écoutez-moi, vous allez jouer avec le maillot bleu, avec les étoiles bleues.
Mais bien sûr, quand t'es en niveau, tu n'as pas le droit de refuser une sélection.
Quand t'es joueur de tennis, t'as le droit de refuser les sélections d'équipe de France, de Coupe Davis, ça ne pose pas de problème, quoi.
Si le ressort est distendu, voilà, parce que il s'agit de ça quand même, c'est la motivation. S'il est distendu, c'est distendu. Ça peut arriver à 29, à 25, à 24, il n'y a pas d'âge pour ça. Quand c'est distendu, il ne faut pas y aller plus loin. Alors quelquefois ça arrive à se retendre, comme le dit Sarah, mais c'est rare. Mais s'il le sent, moi je trouve que c'est très honnête de sa part, et c'est bien. T'aurais pu choisir un autre thème. Il y a Pierre Gasly et Ocon, là, qui sont des Normands qui ont démarré il y a 20 ans en karting ensemble en Seine-Maritime, et qui se retrouve dans un baquet chez Alpine. Ça aurait été ça, c'était un bon thème pour l'émission.
D'accord, ok. On l'a fait il y a 6 mois. Merci en tout cas, David Douillet, de cette proposition. merci, David. Sur le débat, quand même, on va parler de Raphaël Varane et on reparlera d'Alpine, promis, juré, avant le début de la saison. Ça débute dans un mois, la saison de Formule 1.
C'est teasing.
Exactement. Quel teasing incroyable. Son discours est-il audible? Simon Dutin.
Varane, il a commencé en pro à 17 ans à Lens, il a signé à 18 ans au Real, il a joué 10 ans là-bas, pendant 10 ans il a gagné 4 fois la Ligue des Champions, donc c'est un mec qui joue tous les ans jusqu'à fin mai, lui il va au bout des compétitions, il va en sélection tous les étés, ça a été un taulier, 93 sélections quand même, c'est pas n'importe quoi, t'as gagné la choule.
Mais il le regrettera dans 2 ans, dans 3 ans.
Mais comme dit Sarah, il finit la finale de la Coupe du Monde, il est à l'agonie totale, parce qu'il est fatigué.
Et comme le dit Sarah, si c'est fiasco au prochain Euro et que machin, il n'est pas interdit de penser que il reviendra sauver la nation. Je pense qu'il a besoin. Je pense qu'il a besoin. Bah oui, la finale de la Coupe du Monde et là cette épopée. Effectivement, il y a une page qui se tourne en bleu. Peut-être que là, sur le moment, il a envie de laisser la place. Peut-être qu'il a envie de garder, je sais pas, un petit peu de temps libre avec sa famille. C'est tout à fait compréhensible. Moi, ça m'étonnerait pas qu'effectivement, d'ici 2 ans, il revienne. Hein. Ouais. Mais mais bon, ça va, t'es chevalier de la Légion d'honneur, t'es champion du monde, t'as gagné 4
fois la Ligue des Champions. Didier Deschamps l'a dit hier, j'aurais préféré qu'il attende encore.
Mais tu m'étonnes, sans déconner.
Bah évidemment.
Oui, ça reste un des meilleurs défenseurs centraux du monde. En même temps, il est
à ce poste-là, on peut pas dire qu'il nous manque blessé. Des joueurs aussi.
Il est très souvent blessé. Il a besoin de se poser un peu.
Et sur la blessure, je pense qu'aussi il faut rappeler que à 6 semaines de la Coupe du Monde, cette blessure, elle a peut-être aussi eu une blessure psychologique. Il a eu tellement peur de pas participer à la Coupe du Monde qu'il y a peut-être aussi ça, c'est de se dire j'ai besoin de me préserver aujourd'hui. Voilà. Il a aussi besoin de se préserver. Mais je suis un peu comme Simon, moi j'ai rendez-vous dans 2 ans.
Ok, bah je trouve ça dommage d'annoncer comme ça en grande pompe que voilà, on en
peut... C'est pas chaud.
Juste
hein,
que c'est trop compliqué l'équipe de France maintenant et qu'il préfère arrêter. Ouais. Et si dans 2 ans il revient en disant ah bah maintenant j'ai retrouvé la flamme, moi ça m'embête.
T'aurais bien aimé que je prenne ma retraite à 29 ans. Eh ben c'est râpé. Moi je vais rester au bout jusqu'au bout pour t'embêter jusqu'à la fin.
Bah là les 67 ans, je peux dire que je suis en train de les regretter. 10h57, on se retrouve dans quelques instants avec le 15 de France. Et ce tournoi des 6 nations qui débute demain.
Mais super le débat caché, du coup on était 4 d'accord, c'est une belle.
Puis on savait tous
une belle trouvaille, on avait tous deviné le débat. Joliment, j'y sais.
Ok, très bien, il n'y a pas de problème. Vous verrez la prochaine fois. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.